Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes le jeudi 30 janvier. Voici les titres de notre Zoom Info. Le département de l'Hérault, dirigé par le socialiste Kléber Mesquida, supprime 100% de ses subventions au secteur culturel. Un an après l'adoption difficile, le 26 janvier 2024, de la loi Asile et Immigration, ou loi Darmanin, du nom du ministre de l'Intérieur de l'époque, son successeur Bruno Retailleau vient d'adresser une circulaire au préfet qui définit de nouvelles orientations pour l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. On fait le point avec Jean-Philippe Turpin, directeur du Centre d'accueil des demandeurs d'asile, le CADA, de Béziers. Accélérateur création individuelle n'est pas le nom d'une nouvelle intelligence artificielle, mais celui d'un dispositif mis en place pour soutenir des entrepreneurs installés ou issus des quartiers politiques de la ville de l'Ouest Héraultais. À Bessan, non loin de Béziers, pour combattre les dépôts sauvages de déchets, le maire équipe sa commune de caméras nomades. Lundi 27 janvier, lors d'une réunion avec les vice-présidents du département, le président Kléber Mesquida a annoncé un budget nul pour la culture en 2025. Avec un budget annuel de 2 milliards d'euros, dont la part non obligatoire consacrée à la culture représente entre 5 et 6 millions d'euros, notre département devient le seul qui ne consacrera pas un centime à la culture en 2025. Si le service communication de la collectivité a bien confirmé la nouvelle auprès du journal Libération, rien n'est encore officiel. Dans un courrier envoyé le 2 décembre à l'intersyndicale de la région Occitanie, Kléber Mesquida annonçait qu'il supprimerait pour 2025, je le cite, « toutes les dépenses non obligatoires et les subventions ». Il prévenait qu'il n'était pas envisageable que le département emprunte pour subventionner des tiers, dont la culture. Le département nous apprend, le journal Libération, qu'il est exsangue avec un déficit de 103 701 euros dû à des baisses de dotation et à de nouvelles charges décidées par l'État, que la décision a été prise de se concentrer sur ses compétences obligatoires qui relèvent des écoles de musique, des établissements qui accueillent des personnes âgées et des enfants confiés par des juges. Cette décision fait écho à des mesures prises par le républicain Laurent Wauquiez lorsqu'il était président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puis de Christelle Morançais du groupe Horizon et présidente des Pays de la Loire. À l'instar de l'Hérault, est-ce que d'autres collectivités étiquetées à gauche vont être tentées de supprimer la culture comme service public, issu de la décentralisation et imaginée après-guerre par le Conseil national de la Résistance? Nous sommes donc avec le directeur du CADA de Béziers, géré par la CIMAD, Jean-Philippe Turpin, bonjour.
Bonjour.
Je le disais en ouvrant ce journal, la loi Darmanin a été adoptée le 26 janvier 2024, après une motion de rejet et une censure partielle du Conseil constitutionnel. C'est, si je ne me trompe pas, le 29e texte sur l'asile et l'immigration depuis 1980. Et de nombreuses associations, dont la vôtre, la CIMAD, avaient considéré que ce texte se caractérisait par un recul brutal des droits des personnes étrangères et qu'il donnait des gages à l'extrême droite, avec par exemple la facilitation des expulsions, une succession de mesures durcissant encore davantage l'accès et le renouvellement des titres de séjour, et un durcissement de l'accès à la procédure d'asile. Un an après, Jean-Philippe Turpin, est-ce que l'on peut déjà établir un bilan et qu'est-ce que vous avez, vous, constaté sur le terrain?
Eh bien, oui, alors effectivement, je vous fais confiance sur les chiffres, le nombre de modifications de loi, parce que pour ma part, je ne les compte plus. Effectivement, depuis un an, il s'est passé ce qui était annoncé dès le départ, c'est-à-dire que le durcissement de la loi a entraîné des situations vécues encore plus difficiles. Alors, je ne sais pas si je dois reprendre toutes les modifications qui ont...
Non, peut-être les plus emblématiques que vous avez constatées.
Ouais, voilà. Moi, je crois que une des plus importantes, c'est la notion de trouble, de menace à l'ordre public. Hein, parce que effectivement, la loi a fait intervenir cette notion en disant que c'est de plus en plus difficile pour les personnes étrangères d'obtenir un titre de séjour au prétexte qu'elles sont une menace à l'ordre public. Et aujourd'hui, nous, on a des gens qui n'obtiennent pas de titre de séjour pour cette raison-là, sachant que cette raison, ça peut être des choses très très anodines, le fait de, pas anodines, qui ne sont pas une menace pour l'ensemble de la société, type avoir volé de la nourriture dans un magasin, par exemple, on a eu cet exemple-là, fait qu'aujourd'hui, les gens n'obtiennent pas un titre, alors que auparavant ils auraient pu l'obtenir. D'une manière générale, la question des métiers en tension aussi est pour nous un vrai problème. C'est-à-dire que cette loi laissait espérer qu'on allait pouvoir régulariser des gens en fonction de la profession qu'ils allaient exercer, si celle-ci était dans une liste de ce qu'on appelle métier en tension. Or, on s'aperçoit que c'est absolument impossible aujourd'hui d'obtenir un titre de séjour sous cette forme-là. Sur la question de l'asile, on a un durcissement très important de l'accès aux conditions matérielles d'accueil. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est plus difficile d'obtenir le minimum pour vivre, en fait, pour les demandeurs d'asile, etc., etc. Je crois que c'est au-delà de la question de la loi. Je crois qu'on a perdu une bataille culturelle, en fait, et qu'aujourd'hui, ces lois montrent plutôt une évolution de l'ensemble de l'idéologie de la société. Et c'est plutôt ça qui est très inquiétant.
Bruno Retailleau, qui était à l'époque chef de file des sénateurs Les Républicains, avait fortement participé au durcissement de ce texte. Il est maintenant ministre de l'Intérieur et il vient d'envoyer une circulaire au préfet qui abroge la circulaire Valls de 2012, circulaire qui visait une juste prise en compte de certaines réalités humaines. Et la circulaire Retailleau définit de nouvelles orientations pour l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière. Comment interprétez-vous cette circulaire ?
Et bien dans la même veine que ce que je viens de vous dire sur la loi, c'est-à-dire que ça vient donner un discours, ça vient délivrer un discours en fait, c'est ça qui est visé, c'est délivrer un discours qui va toujours au plus vers le fait de stigmatiser les étrangers en fait, c'est ça. Alors la circulaire, je l'ai effectivement lue dans le texte, et elle est très très courte. Alors déjà, il faut rappeler qu'une circulaire, ça n'est pas une loi. Mmh. C'est pas ça normalement qui permet. Enfin, il y a des possibilités pour obtenir un titre de séjour de par la loi, qui ne sont pas évidemment remises en cause par la circulaire, mais il n'empêche, la circulaire qui a été abrogée, donc ce qu'on appelait la circulaire Valls, donnait quand même un peu un contexte en disant soyez un peu plus, regardez un peu plus de plus près certaines situations, si les gens sont là depuis longtemps, s'ils sont insérés, s'ils ont des enfants scolarisés, etc., etc. Donc là, avec cette nouvelle circulaire, tout ça s'est balayé d'un trait de plume, et on durcit encore les situations, donc enfin
les critères.
Les critères, voilà. Le premier critère avec 7 ans de présence en France, donc en gros, les préfets pourront régulariser s'ils le souhaitent, parce qu'on est bien d'accord, c'est la régularisation exceptionnelle, c'est pas du tout la loi. Donc 7 ans de présence, alors qu'on était à 5 ans avant, donc ça veut dire qu'il faut attendre 2 ans de plus pour les sans-papiers. Mais des conditions sur la question du travail, là aussi, la circulaire demande au préfet de ne regarder que des gens qui sont dans des conditions de travail, et notamment des travails de ces fameux métiers en tension dont j'ai parlé tout à l'heure. La question de la langue est aussi beaucoup plus détenue et abordée en disant il faut que les gens aient un certain niveau de français attesté par un examen, voilà, etc., etc. Le trouble à l'ordre public, évidemment, et la menace pour l'ordre public est rappelée encore dans cette circulaire. Bon, en gros, ça devient... quasi impossible d'être régularisé de manière exceptionnelle par cette circulaire. Mais cette circulaire vient ajouter, encore une fois, du discours à l'ensemble du discours contre les étrangers. Et évidemment, avec une vision électoraliste qui est derrière.
C'est-à-dire que ce faisant, en fait, le gouvernement Bayrou, par la voix de son ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, rejoint quand même pas mal de positions du Rassemblement national.
Mais on est entièrement là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une circulaire, finalement, c'est un texte qui n'est pas si important que ça. Le Retailleau se donne de l'importance comme si déjà il était dans... Parce qu'il est un peu présent partout. Hein. Il s'occupe d'affaires étrangères, avec des relations avec l'Algérie, il s'occupe de plein de choses. Donc il donne l'impression d'être très actif et de proposer un ensemble de textes qui va dans les idées du Rassemblement National. Et cette circulaire est vraiment l'exemple type. Hein. C'est-à-dire que c'est un texte effectivement qui est très dur, mais en même temps qui a donné lieu à aucun débat, aucune discussion. Il n'y a pas de députés qui sont intervenus pour la rédaction de ce texte. Donc ça reste effectivement du discours. Il n'empêche que les préfets auront toujours le pouvoir de régulariser ou pas. Ça ne va pas beaucoup changer pour nous, dans la mesure où c'était déjà quasiment impossible. On n'arrive plus à régulariser les gens de manière exceptionnelle ou de manière très très exceptionnelle.
Jean-Philippe Turpin, je vous remercie. Chers auditeurs et auditrices de RPH Sud Radio Pays d'Hérault, je vous informe que ce samedi 1er février, l'association L'Oustalité vous invite à discuter avec Annick Redolfi, la réalisatrice de Devant Contre-champ de la rétention. Son film suit des femmes près du centre de rétention administrative de Vincennes, à côté de Paris, qui attendent l'expulsion ou la libération de leurs proches enfermés. Ça se passe à 20h30 au cinéma Luteva de l'Odève ce samedi 1er février. portée par BGE Westero, membre de BGE, un réseau national d'accompagnement et d'aide à la création et au développement d'entreprises, fondé en 1980. Le dispositif Accélérateur Création Individuelle va suivre durant un an 16 entrepreneurs installés ou issus des quartiers politiques de la ville, afin de leur faire passer le cap délicat des 3 ans. Parce qu'au-delà, la fiscalité change et les néo-entrepreneurs ont parfois du mal à l'anticiper. Lancée lundi 27 janvier au Château du Parc à Pézenas, la première édition de cette initiative est financée par BPI France et le ministère de l'Économie et des Finances. Ainsi, durant 12 mois, ces 16 futurs patrons issus ou installés dans les QPV de Béziers et Bédarieux, Agde et Sète vont bénéficier d'un programme intensif pour la réussite durable de leur entreprise. Et afin de ne pas laisser seuls ces jeunes qui se lancent, BGE Westero proposera donc des ateliers avec des intervenants experts dans leur domaine du marketing digital, de la communication, etc. Des réunions sur des thématiques précises avec des dirigeants et près de 2000 heures d'ateliers pratico-pratiques, des rendez-vous individuels personnalisés ou des rencontres favorisant la mise en réseau. Une forme de tutorat ou de mentorat. Le défi de ce parcours, c'est de faire évoluer leur activité, de développer leur chiffre d'affaires ou de procéder à un changement d'échelle de l'entreprise. Ce nouveau dispositif prend place dans le programme gouvernemental Entrepreneuriat Quartier 2030, qui entend dynamiser des quartiers difficiles, confrontés à de nombreux problèmes. Par exemple, à Bédarieux, 49,9% de la population vit en QPV, avec un taux de pauvreté de 41% et de chômage de 29%, avec 34% des 16-25 ans qui sont non scolarisés ou sans emploi. À Béziers, un tiers des habitants vit en QPV, le quartier du centre-ville, le quartier de la Devèze et celui d'Irangé-Gangette, avec respectivement un taux de pauvreté de 57%, 65% et 71%, et un taux de chômage de 35,8%, 30,6% et 42,1%. Le département de l'Hérault compte 22 QPV. Outre ceux que je viens de vous citer, il y en a 10 à Montpellier, 1 à Frontignan, 2 à 7, 1 à Agde, 1 à Lunel, 1 à Lodève et 1 à Clermont-l'Hérault. C'est-à-dire que 105 000 habitants héraultais vivent en QPV, soit un peu plus de 9% de la population du département. Sans transition, on parle déchets et décharges sauvages dans nos villes et nos campagnes. À Bessan, non loin de Béziers, le maire Stéphane Pépin-Bonnet est exaspéré. Sa commune de 5 000 habitants s'est dotée en décembre 2024 de 2 caméras espions, plus connues sous le nom de caméras de chasse, dotées d'une carte SIM permettant de transférer en temps réel les images à la police municipale. Les contrevenants sont alors identifiables et les données sont ensuite transmises à la gendarmerie. Ce mois-ci, le premier à se faire pincer en flagrant délit vient d'écoper d'une amende de 1 500 euros. Les deux caméras achetées par la ville de Bessan, nomades et plutôt discrètes, sont attachées à des arbres. Elles sont déplacées de manière régulière afin de surprendre ceux qui viendraient déposer leurs déchets en toute illégalité, plutôt que de les apporter en déchetterie. En septembre 2024, la ville de Béziers, toujours à la pointe de la modernité, s'était dotée d'une dizaine de caméras nomades pour traquer ceux qui jettent les encombrants en ville et dans la nature. Leurs photos avaient ensuite été publiées sur Internet. Le maire de Bessan, qui envisage de diffuser les noms des contrevenants sur les réseaux sociaux, rappelle que ces dépôts sont interdits et que leur ramassage coûte de l'argent aux collectivités. Selon l'association Gestes Propres, le nombre d'infractions liées au dépôt de déchets sauvages constatés par la gendarmerie a augmenté de 85% entre 2017 et 2021. On estime que chaque année, en moyenne, 20 kg de déchets sauvages sont abandonnés par personne. Les dépôts sauvages, de même que l'enfouissement des déchets, sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975, qui fixe les grands principes de la réglementation en matière de déchets. Le dépôt d'ordures est considéré comme un délit et le Code de l'environnement prévoit une amende pouvant donc aller jusqu'à 1 500 euros pour un particulier, 3 000 euros en cas de récidive. Le montant peut atteindre 10 000 euros pour une entreprise et jusqu'à 75 000 euros en ce qui concerne les déchets dits professionnels tels que ceux générés par le secteur du BTP. Cet acte d'incivisme est également passible de 2 ans de prison et depuis la loi du 22 août 2021, qui porte sur la lutte contre le dérèglement climatique, le dépôt sauvage d'ordures est même considéré comme un délit d'écocide, car il expose l'environnement à un risque de dégradation durable des écosystèmes. Les sanctions encourues exposent l'auteur à un maximum de 3 ans de prison et 250 000 euros d'amende. Et c'est la mairie qui est compétente pour constater l'existence de dépôts sauvages et en assurer l'élimination. Stéphane Pépin-Bonnet pourrait faire des émules puisque des élus des communes voisines de Bessan se déclarent intéressés par son initiative. C'est la fin de ce Zoom Info. On se retrouve vendredi à 18h15 pour parler délinquance dans l'Hérault avec le bilan 2024 de la préfecture. Comme disait Stéphane Escher au siècle dernier, les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. Mais haut les cœurs, ce jeudi à 20h30, le cinéma Alain René de Clermont-l'Hérault vous propose d'échanger avec le réalisateur Pierre Carle à l'occasion de la projection de son documentaire « La guérilla des FARC, l'avenir a une histoire ». Je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée sur les ondes de Radio Pays d'Hérault, RPH 1.